bienvenue à cette conférence de midi sur l'ASF peut-elle inventer de nouvelles histoires. Nous avons sur ce plateau Laurent Jeunefort, qui est auteur, directeur de collection, qui a été universitaire sur la science-fiction un petit peu aussi. Norbert Bendrajan, qui est auteur, qui fait partie de la Volte, entre autres choses, et qui est là pour nous entretenir de manière conséquente sur le sujet. Il s'appelle Norbert, pas Robert, comme sur le programme. Et enfin, Francis Berthegaud, qui est auteur, universitaire, homme à tout faire, musicien, et ainsi de suite. Et donc, nous sommes ici pour essayer, tenter de répondre à cette question qui est finalement assez vaste, de savoir si la science-fiction a atteint de nos jours une certaine limite qui l'oblige à se renouveler ou à suivre l'évolution moderne de l'homme, c'est-à-dire l'évolution technologique et sociétale. Je ne sais pas comment formuler exactement ma première question. J'aimerais savoir si pour vous, tout d'abord, il y a cette notion de limite au niveau de la science-fiction, savoir si on arrive maintenant, à notre époque, à une période charnière où la science-fiction doit ou peut se renouveler.
Bon, allez, j'y vais. Moi, j'ai l'impression que la SF, elle s'est toujours cherchée, en fait. Elle a créé des mouvements littéraires, c'est tenter d'apporter des réponses, justement. C'est vrai que la SF, elle reproduit bien l'espèce de chaos dans lequel on est actuellement. Mais je la trouve toujours aussi conceptuellement dynamique, personnellement. Même si ces dernières années, on a tendance à capitaliser des concepts qui datent de déjà une quinzaine d'années, avec des auteurs comme Greg Egan qui datent des années 90. Mais cela dit, elle continue à emprunter au genre adjacent. Oui, elle a des limites, qui sont les limites des emprunts à des genres constitués. Mais je la vois évoluer. J'ai vu la mort du cyberpunk pur à la fin des années 80. L'émergence, le renouveau du space opéra par le haut, avec un space opéra beaucoup plus littéraire qu'il n'avait jamais été auparavant. Donc, ça bouge.
Oui, bon, la question de la limite, elle me rappelle un petit peu celle en histoire de la fin de l'histoire. C'est-à-dire comme si on était à une époque aujourd'hui où on atteindrait un seuil, mais qui soit, non pas un seuil, mais un mur. Et pour ma part, je crois que la science-fiction a une chance extraordinaire, c'est qu'elle est au croisement de deux univers de recherche. La science, d'un côté, qui est un univers de recherche en soi, et où la spéculation est permanente, et l'art, quel que soit, donc là, on est dans la littérature, qui est un autre univers de recherche. Et donc, à mon sens, la science-fiction est condamnée à chercher. Elle ne peut exister entre ces deux univers qui lui sont indépendants qu'en étant elle-même en recherche et en quête. Et qu'à partir du moment où elle abandonne ça, elle se fourvoie et elle ne va plus très loin. Sur la science, par exemple, aujourd'hui, les spéculations des théoriciens physiques sur les multivers, par exemple, ou sur la nature des trous noirs, sont aucun auteur de science-fiction n'a osé aller jusque-là dans la spéculation. Si on veut vraiment aller dans des hypothèses qui sont absolument énormes, immenses, la science en apporte, et la théorie physique en tout cas, en apporte d'extraordinaire. À la limite, on pourrait presque reprocher à la science-fiction d'être un petit peu trop prudente par rapport à ces innovations-là.
Je ne suis pas d'accord. Vas-y, termine.
Continue.
Ouais. Mais quand on voit des romans comme Temps de Baxter, C'est absolument. Enfin, on retrouve ce vertige des. Justement, moi, je trouve que c'est la science qui est devenue presque de la SF dans la spéculation. Après tout, la théorie des cordes, elle est pas prouvable à l'heure actuelle. On est dans des spéculations parce qu'on n'a pas les moyens de vérifier empiriquement. Sa validité et ça va et on sait parfaitement que ça va rester en l'état pendant des dizaines peut-être des décennies quoi. Donc je trouve que c'est l'inverse. La SF elle est restée vertigineuse avec des auteurs justement comme Egan, Beer, Ben Ford, etc. Mais c'est la science qui est devenue peut-être plus vertigineuse qu'avant. Ouais.
Oui, c'est mon propos n'est pas de dire que la science-fiction n'est pas vertigineuse, c'est de dire que la science est encore, à l'heure actuelle, et parfois plus vertigineuse. Et qu'à la limite, c'est très bien. C'est un moteur extraordinaire pour des auteurs de science-fiction. Ce vertige-là qui nous est renvoyé par les scientifiques, mais moi, je pense aussi au vertige qui peut être renvoyé par le monde de l'art ou par le monde de la recherche littéraire. Il peut y avoir, à un moment donné, c'est là où la science-fiction peut produire ce qu'elle a de meilleur, c'est quand elle parvient de ces deux vertiges à en créer un autre. Un autre qui est encore plus puissant et qui se nourrit des deux.
Bon, moi, je crois que je vais assumer ma fonction ici, qui consiste à pourrir le débat, en disant que la science-fiction, elle écrit rien du tout. Science-fiction, c'est pas, elle écrit pas, elle ne parle pas. Ce sont les auteurs qui le font. Alors, la question, c'est est-ce que des auteurs actuellement ont encore quelque chose à dire dans ce genre littéraire. Est-ce que ce genre littéraire peut servir de vecteur actuellement à l'imaginaire de jeunes auteurs? Et je me garderai bien de répondre à cette question parce que je n'en lis plus de science-fiction depuis pas mal d'années, donc je ne sais pas du tout ce qui s'y passe. Mais je sais qu'en ce qui me concerne, dans les années 80, la science-fiction était un vecteur idéal pour mon imaginaire et ça a duré exactement 10 ans. Et au bout de 10 ans, la science-fiction n'opérait plus comme vecteur. C'était fini. J'avais dit tout ce que j'avais à dire en science-fiction. Ça ne m'intéressait plus d'en écrire. Donc j'ai arrêté d'écrire de la science-fiction. Je suis passé à autre chose qui a été du réalisme, qui est devenu petit à petit du réalisme magique. Et a abouti à une espèce de fantastique totalement personnel. Ceci pour dire que ce qui est important, à mon avis, c'est pas tellement de raisonner la science-fiction comme une entité divine, mais de regarder ce que tel auteur, à un moment donné, par rapport à l'évolution socio-technologique où il se trouve du moment à dire. Bon, par exemple, William Gibson, à un moment donné, a fait apparaître le cyberpunk. Bon, parce que c'était lui. D'ailleurs, il y avait deux tendances.
Termine.
Oui, il y avait deux tendances, d'ailleurs, à ce moment-là. Il y avait le cyberpunk et les humanistes qui se faisaient la guerre. C'était assez intéressant de voir cette divergence, justement, qui correspond finalement à la... Est-ce que science-fiction égale hard science ou pas?
Mais en même temps, chez Gibson, il a fait un peu précipiter un certain nombre de concepts qui existaient épars dans la SF. Et pourquoi tout à coup ça a pris? Il y a un côté collectif quand même. À un moment, il faut que ça résonne et qu'un auteur résonne à l'intérieur... d'un genre, enfin parmi les autres auteurs, parmi les lecteurs des fois, et en ce qui concerne Gibson, c'était parmi les auteurs d'ailleurs, presque plus que parmi les lecteurs.
Pour moi, il n'a pas résonné du tout, son bouquin m'est tombé des mains.
Ah oui, après, mais n'empêche qu'il y a, il a généré un genre.
Tout à fait.
Il y a eu un mouvement.
Ça veut dire que ça a correspondu à quelque chose de l'ère du temps. Voilà. Et là aujourd'hui, je trouve que c'est pas un hasard si il y a beaucoup d'auteurs de SF, je vois Ian McDonald et puis d'autres, ont ethnicisé le monde. Et on vit dans un monde qui s'est, depuis pas mal d'années, où les problématiques sont des problématiques qui redeviennent ethniques, qui avaient totalement disparu dans la SF ou qui n'étaient même jamais apparues. Et la SF, elle suit les mouvements du monde aussi, mais au niveau très macro, quoi.
Et puis, il faut voir aussi qu'il y a toujours un phénomène action-réaction. C'est-à-dire que pendant quelques décennies, la science-fiction a été basée sur les sciences dures. Et dans les années 70, si j'ai bonne mémoire, tout à coup, il y a toute une branche de la science-fiction qui s'est axée sur les sciences humaines. Et ça a débouché notamment sur la spéculative fiction et ça a ouvert un très vaste champ. De même, quand est apparu le cyberpunk, en réaction à ça, de manière quasiment canularesque, sauf que ça a très bien fonctionné, est apparu le steampunk, qui était un retour vers le passé, vers le 19e ou 18e même. Et si on regarde d'un peu plus haut, on peut se dire, non sans une certaine inquiétude si on aime la science-fiction, que depuis 10 ans, la science-fiction se fait damer le pion très largement par la fantasy. Donc on observe le même phénomène de recul dans le temps par rapport à l'ensemble du genre, alors la fantasy supplantant la science-fiction. Ce qui ne veut pas dire que la science-fiction est morte, parce que tant qu'il restera un auteur pour en écrire, elle continuera à vivre et cet auteur peut-être trouvera des voies qui vont subvertir tout ce qu'on croyait déjà savoir.
Moi, je reprends, Francis, ce que tu as dit sur la science-fiction. On ne peut pas répondre sur la science-fiction. De toute façon, il vaut mieux revenir aux auteurs. Je pense que c'est très juste. Et en revanche, cette idée de limite, elle est peut-être aussi celle de paradigme de pensée. C'est-à-dire que finalement, moi, il y a une des questions que je me pose énormément dans mes ouvrages, dans ce que j'écris, c'est la nature humaine. Et une question corollaire, c'est est-ce qu'il y a fondamentalement une nature humaine ou plusieurs, c'est-à-dire une humanité ou plusieurs. Et en poussant le bouchon encore un peu plus loin, mais là, c'est là où on atteint les paradigmes, voire le dogme, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui considère l'humain comme étant une espèce. Est-ce que les évolutions technologiques, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient d'implants, qu'elles soient robotiques, etc., etc., vont permettre une différenciation qui va toucher à la nature humaine elle-même ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer dans un futur plus ou moins lointain des outils qui permettent à l'homme de se différencier suffisamment pour toucher à son unicité d'espèce et donc à se différencier. Sauf que là, le mur, il n'est pas tellement dans l'invention. L'idée n'est pas d'inventer cela. Il y a eu dans le passé de nombreux hominidés plus ou moins pensants et il n'en reste qu'un. Donc la pluralité, elle a existé dans le passé. Et pour moi, la barrière, la frontière, elle est dogmatique, elle est métaphysique, c'est-à-dire est-ce que l'humanité est capable aujourd'hui et comment d'accepter une pluralité, c'est-à-dire le fait de se diversifier. Et si elle est capable de l'accepter, c'est avec quel concept culturel et quelles conséquences, bien entendu, sociopolitiques.
T'as bien réfléchi à la question.
Non mais voilà, parce qu'autant rentrer dans le vif du sujet, quitte à poser des choses d'invention, des idées d'invention, à mon avis, il y a un moment où il faut aller vers les idées qui restent à creuser, qui restent, à mon avis, qui ont été déjà explorées, hein, le transhumain, etc., a été exploré, mais qui restent à creuser et qui, à mon sens, restent à creuser parce que là, le mur, c'est un mur vraiment métaphysique, quasi idéologique. C'est-à-dire que aujourd'hui, un auteur qui va écrire, qui va ramener l'humanité dans sa diversité, mais en ne remettant pas en cause l'idée d'une seule espèce et d'une unicité, est dans le dogme. Mais en revanche, aller vers de les cyberpunk l'avaient un peu exploré, mais d'autres, aller vers l'idée que l'humanité pourrait vraiment se diversifier radicalement, là, on sort du dogme.
Tu as ça dans Les Plus Qu'Humains de Sturgeon, par exemple.
Ça a déjà été exploré, mais je pense que là, il y a un mur, une vraie frontière qui est aussi bien technologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore les technologies pour y aller, vraiment, et conceptuelle dans le sens où toute notre société nous envoie un message qui est complètement différent de cela.
Oui, je crois également les auteurs réagissent à ce qui se passe à un moment donné de leur vie. Certains ouvrages naissent d'un événement historique précis. Je ne sais pas si, par exemple, le 11 septembre a généré des ouvrages de science-fiction ou pas. Oussama de Spinrad. Bon, voilà, une réponse excellente, effectivement. Donc, tant qu'il se passe quelque chose dans le monde réel, socio-politico, scientifico, artistico, machin, il peut toujours y avoir un auteur qui va rebondir là-dessus et extrapoler, parce que c'est un peu ça une des fonctions de la science-fiction, c'est d'extrapoler à partir de données existantes et de voir ce que ça peut produire, alors que cet événement n'avait pas encore eu lieu et était imprévisible. Des choses qui... Bon, le 11 septembre n'était pas prévisible, par exemple. De même, le sida n'était pas prévisible, et quand il est apparu, ça a généré un certain nombre d'ouvrages qui ont exploré les possibles d'une maladie, de sa résolution, sa signification profonde, ses répercussions sociales, ce que ça disait sur les rapports entre les gens, etc., etc., dont Spinrad, d'ailleurs, dans les années fléaux.
Mais la SF, elle a souvent raison sur des trucs qu'on n'avait pas prévus. Par exemple, sur le 11 septembre, j'avais lu un bouquin de Jacques Spitz qui s'appelait La guerre mondiale numéro 3, où il décrit, donc, donc il y a un livre qu'il a écrit en 1945, où il décrit l'entrée en guerre des États-Unis contre la Russie, contre l'URSS, où en fait l'URSS envahit l'Europe et les États-Unis s'en foutent. En fait. Ils laissent faire, ça ne les intéresse pas. Jusqu'à ce que les Russes en prennent à eux, détruisent Chicago avec une bombe nucléaire. Et là, il y a une sorte de choc. Les Américains ne croyaient pas pouvoir être atteints sur leur propre sol. Et là, les Américains commencent à tirer tous azimuts. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 11 septembre 2001.
Tout à fait.
C'est les Américains n'en revenaient pas, ne croyaient pas que pouvoir être atteints sur leur propre sol. Et ils ont commencé à tirer tous azimuts en loupant d'ailleurs leur véritable ennemi. Et ben voilà un exemple de SF qui est... Le livre à l'époque n'avait pas été publié en plus, il était resté à l'état de manuscrit. Il a été publié bien après. Mais voilà où la SF, elle peut... c'est pas forcément au moment... elle peut avoir raison a posteriori, en fait.
Oui, tout à fait. La prise de conscience écologique est un exemple de ça. Elle s'est faite bien après que la science-fiction eût décrit les différentes possibilités d'extinction de la planète, de la race, etc.
Dans une anthologie qui s'appelait Utopie 75... Il y a une nouvelle qui traite du brevetage du vivant. Ben voilà, on était parfaitement dans une anticipation pure de ce qui s'est réellement passé depuis, quoi, avec 20 ans d'avance. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque, ça n'a eu aucune résonance, en fait, à l'époque. C'est finalement a posteriori.
Oui, parce que là, à mon avis, il y a la science-fiction. Je pense, là aussi, en tant qu'auteur, se nourrit de tout support de connaissances, et il y a des tendances longues sociologiques ou des tendances longues politico-historiques qui permettent à des auteurs de pousser jusqu'au bout, à un moment donné, un début d'évolution. Et là, sur l'idée de la brevabilité du vivant, on était sur une extension des brevets, et on est toujours sur cette tendance, et donc évidemment on peut pousser la chose jusqu'à dire quelle est la limite et pourquoi pas le vivant. Là moi en tant qu'auteur, c'est une question d'ailleurs j'en profite que je peux vous poser à tous les deux, sur l'invention, il y a un moment donné où se pose la question de la crédibilité, et je ne me la pose pas en tant qu'auteur parce que je considère que, là aussi, si on prend la théorie physique, dont une grande partie est non testable, mais dans la mécanique quantique à boucle ou la théorie des cordes, il y a quand même des petits éléments testables. Et cette théorie physique, aujourd'hui, fait une, une, une démarche factuelle, enfin une constatation factuelle assez, assez simple, qui est qu'un univers de basse entropie tel que le nôtre, avec une matière organisée de manière complexe, alors qui plus est avec la vie, est d'une probabilité qui est infime. Je sais plus quelle est la probabilité, mais on est à 10-30 ou 10-34 ou 10-40, etc. Donc ça n'a aucun sens en termes de probabilité. Et donc notre univers n'est pas crédible, c'est celui où nous sommes, mais il n'est absolument pas crédible. Donc moi, ma réponse en tant qu'auteur, je l'ai là. C'est-à-dire que la crédibilité ne se pose pas pour moi. Mais en revanche, elle se pose à l'égard, le risque étant de ne... Elle se pose éventuellement pour un éditeur et pour le lecteur. C'est-à-dire, si je vais dans l'invention, ou là où me portent mes idées, là où me porte ma vision du futur, est-ce que... Imaginons même, prenons l'hypothèse, puisque la science-fiction, c'est une littérature d'hypothèse, que je décrive la réalité exacte de dans 3 siècles ou 10 siècles. Est-ce que cette réalité, parce qu'elle est tellement différente de la nôtre, a une chance d'être perçue, digérée, assimilée par un lectorat, par un éditeur actuel? Ça aussi, c'est une vraie question pour moi. C'est-à-dire, en gros, jusqu'à quel moment est-ce que je me mets à raconter une histoire pour rendre crédible ou digeste une réalité que j'entrevois future qui ne l'est pas en soi, parce qu'on a des anachronismes ou des différences de temps ou des différences d'idées trop, trop importantes et qui rendent incompréhensible à un terrien d'aujourd'hui le futur de 1000 ans en avant. Je sais pas, là c'est une question. J'en profite, je pose la question.
Moi je pense que chaque auteur réagit de façon profondément individuelle. Et avant tout, il parle de lui-même, de ce qu'il perçoit du monde, de lui-même en tant qu'individu, de ses pulsions, des dangers qui lui apparaissent. Pour lui, pour ses proches, pour le pays où il vit, pour son espèce, en agrandissant le cercle, pour l'humanité en général, ou pour le cosmos. Mais avant tout, il dit « je », même s'il ne le sait pas, même s'il ne le montre pas. Il le dit au lecteur, absolument. Et le lecteur doit pouvoir se reconnaître dans ce « je ». Alors, tout dépend effectivement du lecteur. Si le lecteur est branché science, il va accrocher à ta proposition. S'il ne l'est pas, il ne se sentira pas du tout concerné. D'où effectivement une partie du cloisonnement entre la littérature générale et la science-fiction, qui est que partie du lectorat ne s'intéresse pas particulièrement à l'évolution scientifique, donc.
Mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que les points de vue, l'état de connaissance du monde de l'époque d'un auteur, il n'y a pas besoin à la rigueur d'écrire de la SF pour le retranscrire d'une manière ou d'une autre. Ce qu'a fait Lovecraft dans les années 30, c'est les années 30. Ouais, 20-30, c'est qui a été dénaturé après. On en a fait un auteur de fantastique avec un mythe de Cthulhu qui, on se demande s'il existe en fait. Mais ce qu'il voulait montrer, c'est l'époque de la découverte des galaxies, de la médiocrité de la Terre dans l'univers, enfin de son côté absolument insignifiant. Et Lovecraft était extrêmement sensible à ça. Et il a montré à travers des dieux gigantesques ayant créé la Terre dans des éons extrêmement reculés, l'horreur de cette insignifiance en fait. Et donc Lovecraft, pour moi, il représente une époque de découverte de l'insignifiance de l'homme, de l'illusion des religions à ce niveau-là. Donc oui, il n'y a pas besoin forcément de faire une US de l'art science pour parler d'un état de connaissance du monde, quoi, du monde même scientifique.
Oui, mais c'est pour ça que je parlais des deux formes de recherche, parce que dans la recherche artistique, il y a une recherche esthétique, et souvent d'ailleurs qui inspire les scientifiques eux-mêmes, et cette recherche esthétique peut être une source de découverte. Une source d'inspiration, une source de découverte. La recherche de, dans la recherche du beau, dans la recherche de la forme, il y a une relation. Enfin, par exemple, avec la recherche mathématique, les deux fonctionnent très très bien. Et mon sentiment, c'est qu'on peut utiliser quelque chose qui pourrait relever de l'irrationnel pur, c'est-à-dire du singulier pur, de la singularité pure, de la subjectivité pure, et rejoindre une recherche au contraire extrêmement qui utilise des outils mathématiques, qui soit la plus scientifique possible. Les deux, pour moi, peuvent converger exactement pour aller au même point ou à des points différents, mais peuvent converger, et on peut utiliser les deux pour arriver. Je pense à Lovecraft, parce que Lovecraft, c'est un auteur très visuel, et qu'effectivement il a une véritable esthétique dans son écriture, et bien plus qu'une inspiration scientifique.
J'avais une question qui pourrait enchaîner aussi après un début très théorique. D'un point de vue tout à fait pragmatique, ça aurait été au point de vue de l'écriture. Est-ce que l'apparition des nouveaux médias et des nouveaux formats d'une société multimédia à 100% peut revoir les codes d'écriture et le développement de nouvelles formes de fictionnalité dans le milieu éditorial science-fictionnel, par exemple?
Ça, c'est presque un débat différent, en fait. Hein.
Oui. Non, mais c'est plus au point de vue de la forme. Puisqu'on parle de nouvelles histoires, est-ce que la forme en tant que telle de la narration ou le format qu'on proposerait au lecteur pourrait influencer justement sur des développements plus vastes et des possibilités plus vastes en termes de narration d'histoire?
J'avais discuté avec un journaliste de jeux vidéo qui rêvait de faire un programme qui permette de... Enfin, ce qu'on trouve déjà dans certains jeux vidéo non linéaires, où on choisit finalement le chemin de sa propre histoire, enfin, où on choisit en tout cas modulairement des bouts d'histoire et on les agence soi-même. Et il me disait, oui, il rêvait d'une sorte comme ça de générateur d'histoire pour que le locuteur devienne acteur de l'histoire qu'il va consommer. Ça devenait un peu compliqué. Et il me disait, oui, avec ce système-là, on peut, à partir d'une même base, on peut créer des dizaines de milliers d'histoires différentes, en fait. Et ce à quoi je lui ai répondu, je me fous totalement de pouvoir avoir 10 000 histoires à ma disposition si ces histoires, c'est de la merde. Ce que je veux, c'est une bonne histoire et pas 10 000 histoires médiocres. Donc, tant que le média garde le créateur au centre du processus, on créera de nouvelles. Il y aura de nouvelles histoires. Si on croit que remplacer un créateur d'histoire par des séries de boucles d'itération ou de rétroaction, moi j'y crois pas, parce que le lecteur ou le spectateur verra les ficelles et verra qu'en face de lui il a une machine aussi intelligente soit-elle et pas un auteur, c'est-à-dire quelqu'un avec un point de vue.
Oui, mais en même temps, les jeux en ligne, par exemple, les jeux interactifs, posent d'une manière nouvelle le problème de l'identité. Et ça permet de... Ça débouche, à mon avis, sur toutes sortes d'histoires qui sont intéressantes. Je vois, par exemple, bon, je fais un jeu de catch virtuel sur Facebook qui s'appelle Unstoppable Wrestler. Donc, chaque joueur est le manager d'un catcheurs. Et les catcheurs sont regroupés en équipes et ils interagissent entre eux. Donc, en fait, les joueurs communiquent entre eux à un double niveau de virtualité. On communique déjà pas directement de personne à personne, mais on communique pas non, même pas de personne à personne via l'interface. On communique d'avatar à avatar. Donc il y a un moment où on peut se poser la question, est-ce que nos avatars sont plus nous-mêmes que nous-mêmes ? Et ça, c'est une question qu'on se pose, y compris dans nos communications. Il y a un moment où on ne sait plus si on s'adresse à l'avatar de l'autre ou à l'autre lui-même. Et ça, ça jette un nouvel éclairage sur le problème de l'identité, qui est un problème humain.
Humain, mais pas spécifiquement SF, en fait.
Posé par une apparition technologique.
Comment ? C'est, disons, les rapports entre... C'est un problème, oui, de lié avec la technosphère en général, je dirais. Mais là où je trouve qu'il y a une vraie parenté entre le jeu vidéo, par exemple, et puis la SF, c'est le côté d'expérimentation. Il y a un côté, on met dans un roman de SF ou une nouvelle, il y a un côté ludique qui est de jouer avec une hypothèse. Et ça, dans le jeu vidéo, on l'a, c'est même, je dirais, presque dans l'essence du jeu vidéo, qui est, on est dans une hypothèse, en fait. Et on va, modeler. Alors là, pour le coup, le joueur, il va être acteur, réellement, et il va pouvoir expérimenter lui-même le système dans lequel on l'a mis, qui est garni de pièges et de choses comme ça, des pièges qui sont parfois conceptuels aussi, comme dans la SF. Donc là, effectivement, il y a une communauté d'esprit entre tout jeu et puis la SF. Il y a aussi un... pour terminer, il y a aussi un côté, j'allais dire, les jeux vidéo, ils s'orientent de plus en plus, même dans des petits jeux, des puzzle games ou des choses comme ça, vers la simulation. Et la simulation est au cœur aussi de la SF. On est dans des univers simulés, des univers simulés et je vois pas de séparation fondamentale entre un univers futur tel que donne à penser Asimov, par exemple, le Asimov de Fondation, et puis un jeu vidéo qui va se fonder sur une simulation. Je vais faire de la pub. From Dust, par exemple, qui imagine, parce que j'ai bossé dessus, qui imagine une simulation géologique où on va permettre à une tribu de survivre dans une nature plus ou moins hostile, mais une nature qui est symbolique, qui dilate et qui rétracte le temps dans celui du jeu vidéo, en fait. Par exemple, on va assister à la naissance d'un volcan, l'érosion du Nil, la disparition d'une végétation entière en l'espace de quelques minutes. Ben ça, on l'a dans la SF d'une certaine manière.
Alors moi, je voulais répondre à la remarque pertinente de Georges sur le fait que l'exemple que j'avais pris n'était pas un exemple littéraire. Et ça me permet également de répondre à la question que posait Antoine. En fait, ce qui peut susciter de nouvelles formes, ce sont les progrès des sciences du langage. Hein, le progrès de la linguistique, de la sémantique, de la narratologie offrent des voies à des constructions, des modes narratifs différents. Et là, c'est vraiment un problème littéraire et qui vient du développement des sciences humaines à ce moment-là. Et là, ça a déjà été pas mal exploré, mais il y a encore, à mon avis, beaucoup de choses à faire sur les structures narratives, justement. Là, on sort complètement de la science-fiction, roman d'aventure, au scénario western de base, applicable à la fantasy baston, d'ailleurs, c'est pareil, c'est le même. On a des modes de récit vraiment nouveaux, différents, avec des points de vue différents, des enchaînements. Bon, un exemple... La maison des feuilles de Danielewski où les niveaux de récit, de narration sont, sont incroyablement variés, différents, et il y a toute une, tout un domaine, à mon avis, très vaste à explorer à ce sujet-là. Mais ça part des sciences humaines, ça part pas des sciences dures. Et c'est littéraire.
Mais moi je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus personnel. J'ai pratiqué beaucoup de jeux, j'étais un gros joueur, notamment de jeux de rôle. Et notamment, il y a dans mes bouquins, il y a un organisme qui s'appelle Retiola, qui est un organisme de pensée, enfin d'êtres humains, mais qui sont en réseau, mais qui ne sont pas simplement en réseau informationnel, mais en réseau organique, tout en étant séparés, en gardant une forme d'individualité. Et je me suis rendu compte, et alors, je me suis posé la question, là on revient à l'idée de l'invention, c'est comment pense un être de cette manière en sortant un peu des poncifs de la pensée collective émergente, des réseaux informatiques actuels qu'on voit partout. Non, vraiment, comment cet être organique-là, s'il existe, peut penser, et quelle est sa forme de singularité, quelle est sa forme de subjectivité? Est-ce que le fait d'avoir des corps séparés continue à donner une individualité à chaque entité, ou est-ce qu'il y a un dépassement? Voilà. Et là, il y a une immersion qui est nécessaire. Et je pense, pourquoi je réagis avec cet exemple, parce que en réalité, plus ou moins consciemment, ça me semble revenir aussi de cette expérience de jeu collectif où on est dans la parole, dans le jeu de rôle, on est dans la parole, on est également dans une petite forme de création, et qui a induit, et qu'on retrouve aussi parfois dans le jeu vidéo en ligne, qui a induit cette idée. Mais pour moi, dès qu'une idée existe, c'est qu'elle existera. Dès qu'elle existera concrètement. Donc je crois que j'ai la conviction que cet être existera un jour. Et donc d'où ma curiosité pour savoir comment il pense. Bien sûr. Non, mais bien entendu. C'est-à-dire que c'est là où le rôle, moi, je suis pas devenu auteur parce que j'en avais envie. Mais à mon avis, l'essence même de l'auteur, c'est d'aller creuser les obsessions qui peuvent être passagères ou temporaires pour beaucoup, et d'aller les creuser de façon totalement obsessionnelle, et d'aller jusqu'au bout, y compris de l'absurde, d'aller jusqu'au bout. Dans l'invention, il y a, à mon avis, une quête de l'absurde à un moment donné, parce que on est dans l'improbabilité totale là aussi. Je crois que c'est ce que le chercheur, tu disais, inventer des histoires. Mais moi je sais pas inventer des histoires. La seule chose que je sais faire, c'est voir des choses que j'imagine dans le futur. Je sais pas tellement où elles sont. Et à partir de là, c'est essayer de les chroniquer, de savoir ce que c'est. C'est d'aller creuser et d'aller me nourrir de des connaissances actuelles pour avoir des outils pour comprendre ce que c'est.
Du coup, sachant que deux d'entre nous devons un peu écourter ce débat, je propose au public de lui poser la question s'il y a des questions, justement.
Micro arrive.
Bonjour. Alors, je voyais parler donc du coup d'un peu de l'évolution, notamment des supports point de vue littéraire. Je me demandais si il y aurait pas un risque au bout d'un moment, donc avec les progrès de la technologie, qu'on délaisse complètement le style un peu papier pour essayer de se plonger vraiment dans le côté immersif, quoi, de vraiment plonger le lecteur dans le récit, ce qui se rapprocherait au bout d'un moment plus du film qu'autre chose, quoi. Enfin, un croisé jeu vidéo film
du type réalité virtuelle,
voilà, un peu dans ce genre là où on pourrait vraiment interagir avec le, enfin, qu'on soit en spectateur ou en première personne. Mais est-ce que ça pourrait pas se rapprocher plus de ça au bout d'un moment? Bon, ça donnerait des avantages, mais bon, ça perdrait complètement le côté lecture, ce qui se rapprocherait vraiment du film, quoi.
C'est une problématique qui existe en ce moment dans le jeu vidéo, où les créateurs de jeux se posent réellement la question que vous posez, où effectivement le jeu vidéo a pas mal souffert de ce rapprochement avec le cinéma, avec des cinématiques interminables, avec un point de vue qui était toujours le même. Donc oui, le risque existe, mais en même temps, il y a toute une génération. Alors le risque, évidemment, ne se pose pas en littérature, puisque la littérature, c'est fait de mots. Donc on s'adresse forcément à l'imagination du lecteur. Mais c'est clair que dans le jeu vidéo, il y a cette problématique, mais auquel les créateurs de jeux réagissent avec beaucoup de vigueur. Il y a une génération de jeux, et là je parle plutôt des jeux téléchargeables, plutôt que ceux des grosses machines de guerre dont on peut voir des affiches partout, qui offrent des expériences de jeux qui sont incroyablement intéressantes
à ce niveau-là. Moi, en tant qu'auteur, je me vois vraiment comme un artisan. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on utilise pour toucher, à un moment donné, quelqu'un d'autre. Le mot, c'est une interface. Le langage est une interface qui, à mon sens, a un intérêt extraordinaire. C'est qu'elle renvoie à la subjectivité de chacun. Si j'emploie le mot merveille, il va nécessairement résonner de façon multiple. En chacun de nous. Si j'utilise à un moment donné une image ou une technologie construite qui va être visuelle ou qui est visuelle et auditive, j'atteins les sens de la personne que je souhaite toucher de façon différente. Voilà, moi j'ai des histoires qui pourraient être adapté, enfin qui pourrait être concrétisé, qui pourrait vivre de façon très différente, mais le seul univers où je me sens vraiment à l'aise, c'est les mots, parce que pour moi le mot respecte la subjectivité de la personne à laquelle je m'adresse, mais ça c'est très personnel.
Bonjour. Vous avez parlé beaucoup de ce qui avait le potentiel de stimuler la créativité en matière de science-fiction. La question que se pose le lecteur lambda, c'est est-ce qu'au contraire, peut-être qu'il n'y en a pas, il n'y a pas des choses qui pourraient l'éteindre, ce potentiel de créativité. Et on peut se poser la question des problématiques éditoriales, du poids commercial. Quand on voit par exemple ce qui est arrivé à la fantasy dans les 20 dernières années, on a quand même l'impression que la créativité s'est étiolée, que le genre s'est un peu standardisé. Est-ce que c'est un risque qui touche la science-fiction et est-ce que les éditeurs peuvent avoir un poids négatif dans ce contexte-là?
La question se pose réellement en SF depuis une vingtaine d'années, moi je trouve.
Oui, je crois.
Sur le justement. Est-ce que la SF est toujours une littérature intéressante, d'avant-garde? Donc, ça se pose. Mais il y a aussi, on ne peut pas abstraire le lecteur de cette problématique. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 90, je ne sais pas si on peut appeler ça un nouvel âge d'or, mais une redéfinition des concepts qui a été très intéressante, avec l'émergence d'auteurs comme Banks, comme McDonald, il y a eu vraiment une génération d'auteurs extrêmement intéressants, entre 90 et 2000, ça a été une décennie que moi j'ai trouvé d'un point de vue de lecteur formidable, mais qui n'a pas rencontré le public. On peut pas retirer de l'équation le lecteur finalement. Et si, même s'il y a un nouvel âge d'or au niveau thématique, si le lecteur n'est pas derrière, ça n'aboutit à rien finalement.
Et moi je crois qu'il y a quand même un phénomène effectivement qui a commencé à se développer à peu près à cette période-là et qui continue à flamboyer, c'est le mélange des genres. C'est-à-dire que les frontières entre la science-fiction, le fantastique et la fantasy sont de plus en plus franchies, y compris les frontières avec la littérature générale. Et il y a toute une dimension très riche de la littérature, alors qui se développe, mais qui porte plus l'étiquette science-fiction, qui utilise entre autres la science-fiction, les outils de la science-fiction, mais qui utilise d'autres outils. Et ça, il faut que... Il faut prendre ça en compte, je pense, en ce moment.
Et puis en plus, il y a des, par exemple, une partie de la vogue de steampunk nous est revenue un peu par la bande via le Japon, par exemple. Et une partie, regardez autour de vous, une partie des jeunes qui s'habillent, enfin qui font du cosplay steampunk, eux, ils n'ont jamais connu, ils ont jamais connu la machine à différence de Gibson et Sterling. Ils n'ont jamais connu les uchronies de Keith Roberts. Eux, ce qu'ils voient, c'est le, ce qui les productions japonaises. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ça prend des passages qui n'avaient pas été forcément prévus. Et je suis tout, enfin, c'est l'évidence même, hein, que la SF elle a diffusé et que évidemment qu'elle existe, mais elle existe beaucoup plus à travers des auteurs comme Houellebecq, hein, que des auteurs comme moi, par exemple. Simplement par l'audience qu'ils ont et les thématiques proches du présent qu'ils ont, quoi.
Mais là, ça renvoie aussi à pourquoi on écrit et pour qui on écrit. C'est-à-dire que nécessairement, moi, là aussi, je vais être subjectif, mais j'écris pas pour un lectorat. Donc, pour moi, c'est vraiment cette question-là, elle renvoie à la fonction de l'éditeur. Et dans l'écriture, dans la les heures passées avec soi-même, j'écris pas pour qui que ce soit, y compris pour moi-même. Donc cette question-là, pour moi, elle, je la laisse à l'éditeur.
Je crois qu'on va rester sur cette parole, parce qu'il va être temps de se retirer. Et on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à notre débat.
Merci.